un peu particulier puisque mine s'en va l'hiver à peu près 14 hectares ou 15 hectares, mais sur ces 14 ou 15, il y en a 10 qui sont pour le CHU. Donc le CHU à lui tout seul, sur une seule opération, quand il va engager son chantier, il va remplir les deux tiers de la parcelle libérée du mine. Sur les fonciers ferroviaires qui font 20 ou 25 hectares, quand les ferroviaires vont s'en aller, ils vont libérer 20 ou 25 hectares. Nous, par exemple, l'échelle d'un bloc A, enfin l'échelle de nos blocs, c'est 120 mètres par 120 mètres, ça fait 1 hectare 2. Donc même par exemple les deux premiers blocs qu'on lance, les blocs A et B, ils vont occuper 2 hectares 5, donc ils vont occuper 10% de ce que va libérer les ferroviaires. Et on va mettre ces blocs A ou B 4 ou 5 ans à les fabriquer. Donc si on reste sur l'exemple du faisceau ferroviaire, mais qu'on pourra appliquer aux autres grandes emprises du Sud-Ouest, bah nécessairement, il va y avoir un décalage entre l'acquisition foncière qu'on va faire en 2022 et les dernières opérations immobilières qui vont venir se poser en 2035 ou en 2040. D'où la question de comment ces sites sont occupés de manière transitoire, avec un peu deux registres, mais finalement la question est un peu la même, qui est le fait qu'il y a un certain nombre de sites qui ont des bâtiments, et puis il y a un certain nombre de sites, notamment ferroviaires, où il n'y a pas de bâtiments, c'est que de l'espace au sol. Mais on sait que dans les deux cas, la nature ayant horreur du vide, si on les occupe pas, ça risque d'être occupé, squatté, occupé par des chondromes, etc. Alors, moi je suis pas à dire que c'est pas bien qu'il y ait quelques chondromes qui occupent nos sites, d'autant plus que souvent ils font un peu de la police entre eux. Et parfois, et nous on les a utilisés, entre guillemets, parfois en disant. À l'entrée du terrain SNCF, parce qu'on a acheté un premier terrain SNCF de 7 hectares, là où on va faire les blocs A ou B, qui sont d'ores et déjà libérés. Et donc à l'entrée du terrain SNCF de 7 hectares, il y avait un petit chondrome qui occupait un petit bout, mais comme ils ne peuvent pas trop s'entendre entre eux, bah, le fait qu'eux soient là, ça a évité qu'il y en ait d'autres qui arrivent sur les 6 ou 7 hectares derrière. Donc ils nous gardiennaient le site à pas cher, quoi, pour faire un peu rapide.
D'accord. Donc c'est pas forcément mauvais qu'il y a des camps
C'est pas forcément mauvais. Après, par contre, il faut que ce soit à peu près correctement géré pour faire qu'à un moment donné, ça parte pas dans tous les sens, quoi. Et
Parce que
avec un sujet aussi qui est que le jour où on commence à en avoir besoin, il faut qu'on puisse soit les enlever, soit les déplacer, en tout cas avoir aussi une stratégie d'occupation vis-à-vis d'eux. Et c'est pas très très facile d'avoir une stratégie d'occupation vis-à-vis des Roms parce que les familles elles changent, etc. etc. Bon. Ou en plus de toutes les questions sanitaires, d'inclusion sociale, etc., que ça peut poser dans les quartiers. Bref, c'était une petite parenthèse sur ces sujets un peu particuliers. Donc on se retrouve de fait avec des terrains vides et avec des bâtiments parfois vides, sur lequel ben c'est aussi intéressant, outre l'aspect sécuritaire, de les occuper, parce que ça peut permettre d'y faire des choses qu'on n'a pas la place de faire ailleurs. Quand on fait le karting, le Solilab ou qu'on vient poser le Chapidoc, on le fait là parce qu'on sait très bien que à l'époque, ces parcelles-là, on les a achetées en 2011 ou 12. On sait très bien que pendant 15 ans, il ne va rien s'y passer en termes de projet urbain.
Et du coup, il y a quand même une réflexion autour de, alors ce qui se développe ici, ça nous, en fait, ça nous sert pour le moment
Oui.
avec la gestion, mais que après, il faut trouver quoi faire avec.
Ça sert un peu à plusieurs choses, c'est-à-dire que, un, de manière très très pragmatique, ça sert parce qu'effectivement ça occupe le site. Donc, nous en tant qu'aménageurs, ça nous évite que ce soit squatté ou ça nous évite de payer des sociétés de gardiennage qui coûtent très très, très cher. Deuxièmement, c'est utile pour ces projets-là en tant que tels parce que c'est des projets qui n'auraient pas vu le jour autrement ou auraient eu beaucoup de mal à voir le jour. Et puis, dans une vision plus définitive du projet urbain, ça a une inflexion et ça peut permettre de faire rentrer certains sujets dans le projet urbain, alors que naturellement, on n'y aurait pas nécessairement pensé. Si je prends l'exemple, moi j'ai pas mal suivi par exemple de Chapidoc. Chapidoc, c'était une recherche qui tournait un peu à l'échelle de l'ensemble de l'agglo. Nous, on avait la chance d'avoir une disponibilité de les poser là. Ils sont arrivés en 2012 ou 2013, on leur a dit oh, on peut difficilement s'engager au-delà de 5 ans. On savait très bien que sans doute on pourrait s'engager plus, mais voilà, c'était un premier discours. Ça a permis de consolider cette activité. Ils travaillent aujourd'hui beaucoup avec les différentes écoles de la ville de Nantes, de Rosay, etc. Et ça veut dire que demain, quand on programmera de manière définitive ce qui se passera dans le projet du parc, bah clairement, une activité comme ça, elle aura sa place. Alors que si sur table, entre guillemets, on avait dû travailler une programmation du parc Pré-Réauduc, enfin du parc métropolitain, je suis pas sûr qu'on se serait dit on va poser un chapiteau et qu'il va faire école de cirque, quoi. Donc et c'est aussi un peu tout l'idée de faire le parc, c'est que ça enrichit la programmation. Et c'est ce qui s'est passé de manière historique et moins organisée finalement sur l'île de Nantes, parce que avant que le projet l'île de Nantes commence réellement au début des années 2000, quand dans les années 90 avec Jean Blaise, il y avait les festivals des allumés qui allaient occuper la fabrique de glace, qui allaient faire des visites sur les sites industriels d'Alstom, etc., bah ça a nourri progressivement des réflexions autour des sujets de culture, etc. L'éléphant aujourd'hui, les machines de l'île, ça vient de là. C'est-à-dire qu'à l'origine, quand le site Alstom, enfin quand Alstom a arrêté son activité sur le site Alstom en 2001 ou 2002, il y avait des grands hangars de vide. Royal Delux avait besoin d'espace pour reconstruire ses machines. Ça s'est construit sur le site Alstom et chez Metoff s'en est emparé en disant bah, à un moment donné, ça a peut-être vocation à rester sur le périmètre de l'île de Nantes dans un développement plus pérenne. Donc voilà, c'est une histoire qui est peut-être plus formalisée aujourd'hui, mais qui est sous-jacente au projet urbain de l'île de Nantes et je pense à un certain nombre de projets sur ce genre de friche. Surtout quand on est dans un milieu urbain comme c'est assez dense, c'est-à-dire que quand tu es dans des friches qui sont. Si on était dans des friches dans la Pampa à Nantes à 30 km, on pourrait sans doute pas faire le même genre de choses que quand on est dans un cœur métropolitain. Moi j'ai en tête, alors c'est aussi parce que c'est chez Metoff, mais le projet de Strasbourg des deux rives, là, avec toute la reconversion d'un ancien site très important industriel qui était une ancienne brasserie, donc là où c'est de la bière. Un très grand bâtiment qui fait je sais pas quoi 10 ou 15 000 mètres carrés. La brasserie elle a fermé dans les années 85-90. Si tu veux plus d'infos là-dessus, tu pourras interroger Olivier Carreau qui a pas mal suivi le sujet.
Ça s'appelait quoi, le brasserie?
Bah, c'est le projet des deux rives et le
D'accord.
site. Il y a la brasserie, mais il n'y avait pas que la brasserie, il y avait un truc dans l'est de la France, ils avaient aussi ce qu'ils appellent la COP. La COP, c'était diminutif de coopérative. En gros, c'est des magasins alimentaires, mais coopératifs. Et donc, la ville de Strasbourg à l'époque, et maintenant la SEM, dans la même proximité que la brasserie, là, a récupéré un bâtiment le site de la COP. Et la COP, un peu comme nous, les Alstom, ce n'est pas du tout la même architecture, parce que c'est une architecture beaucoup plus minérale, en briques, etc. La COP, ça faisait 10-15 000 mètres carrés, et très clairement, ils ont dit qu'il fallait qu'ils l'occupent, parce que sinon, déjà, quand tu les occupes pas, les bâtiments, qu'ils soient squattés ou pas, ils se dégradent. Si le bâtiment, il n'est pas entretenu, pas chauffé, la nature, elle reprend ses droits, les pigeons, ils rentrent dedans, les herbes folles, elles poussent, et ça se dégrade. Et puis deux, c'est le type de lieu où tu peux faire des trucs un peu plus roots que tu vas pas faire ailleurs, quoi.
Est-ce que j'ai bien compris qu'il y avait ça? Donc, du coup, il y avait Royal de Luxe et des autres occupations des lieux qui étaient un peu des squatteurs à la base,
Ouais.
qu'après il y avait une politique
Alors, ils n'étaient pas
qui.
squatteurs, c'était officiel, mais c'était moins, c'était pas structuré comme réflexion. C'était en gros, il y a un hangar de vide qui a été acheté par la ville et Royal Deluxe a des besoins, donc les services de la ville disent bah, prenez ce bâtiment et puis faites votre truc dedans, quoi.
D'accord. Donc, et puis après, donc des fois ça marche bien et que ça forme un peu l'identité de l'île de Nantes. Et quand après, j'imagine que vous savez qu'il y a certaines choses qui n'ont pas bien marché, mais pas où ils sont maintenant. Donc, du coup, je sais qu'avec la ferme urbaine, déjà, il y a une réflexion de où est-ce qu'on va le mettre après. Donc, est-ce qu'il y a toujours
Alors,
cette
la ferme urbaine, c'est une
réflexion?
logique un peu inversée. C'est-à-dire que là, par exemple, si on prend les exemples dont je parle de Royal Deluxe à l'époque, même des Alstom, parce que les Alstom, Moi, j'ai bossé dans les Alstom quand je suis arrivé à Samo en 2005. Et à l'Alstom, ils accueillaient plein de petites boîtes. Et c'est ce qui a finalement donné naissance derrière à la réflexion de dire ces petites boîtes, on veut les garder. Comment on structure une filière d'où la création du quartier de la création, le fait de faire le karting pour pouvoir leur offrir un site d'atterrissage quand le chantier des Alstom commençait, etc. Donc là, en gros, il y a eu une première logique d'accueil de ces gens-là, et que ce soit Royal, enfin, pas Royal de Luxe, que ce soit la machine sur les machines ou les petites entreprises qu'on hébergeait un peu comme ça, à la vas-y comme je te pousse dans les Alstom, comment à partir de ce besoin, on crée des projets qui permettent de les accueillir. La ferme urbaine, c'est un peu différent, puisqu'en fait, la ferme urbaine, ça part du point final, c'est-à-dire le point final, c'est une ferme urbaine en toiture de l'opération des 5 ponts, mais opération qui n'est disponible que, qui n'est livrée que fin 2020. Et donc, d'ici 2020, pour permettre que quand les fermiers vont récupérer la serre de 700 m² de la ferme urbaine, ils aient déjà pu travailler, tester leur modèle économique, etc. On trouve un site qui leur permet de tester ce qu'ils vont faire demain. Donc c'est pas, il n'y a pas eu la ferme urbaine dans le mine, et donc du mine on se dit ah ouais c'est intéressant, il faut qu'on les garde. C'est dans l'autre sens ça s'est fait, c'est-à-dire il y a un projet de les avoir à terme, et donc comment on trouve un site pour qu'ils commencent leur activité alors que le site à terme il est finalisé que fin 2020. Donc c'est inversé comme logique.
Donc, il y avait cette décision de garder le marché aux fleurs.
Et donc, du coup, pour... partant de principe-là, où est-ce qu'on peut les mettre? Bah, il y a le mine et on n'en a pas besoin immédiatement. Donc, plutôt que les mettre par terre, on le garde. Oui. Et à partir de là, il va sans doute y avoir une démarche qui va repartir dans le même sens que sur ce que tu disais tout à l'heure sur la machine de Lille ou les petites boîtes Creative Factory. C'est qu'à partir du moment où mine sud-ouest est plus important que les besoins de l'agronaute, bah de fait, ça laisse la place pour d'autres, donc on va en accueillir d'autres, et en accueillant d'autres, bah, se posera la question à un moment donné de ces autres, qu'est-ce qu'on en fait ?
Ouais.
Puisque autant la ferme urbaine, on sait à la fin où est-ce qu'on les met, autant les autres qu'on va accueillir, et peut-être qu'au final, on gardera, moi je pense qu'on va garder assez longtemps Mine-Ouest.
Ouais.
De manière définitive, j'en sais rien. Parce que ça pose d'autres questions de ces bâtiments, si tu les gardes de manière définitive, ça nécessite de réinvestir de manière plus importante en termes de travaux. Mais moi, je ne vois pas pourquoi ça ne restera pas au moins pendant 10 ans. On a largement de quoi faire à développer tout autour pour ne pas avoir besoin de foutre ça par terre. Et, et de fait, ça va produire dans les 10 ans à venir sur ce site-là un écosystème... vraisemblablement qui va pas mal tourner autour de la question justement de l'agriculture urbaine, de la fabrication, de la production, qui est un truc qui n'était pas dans notre programmation de base.
Ouais, donc du coup ça peut
devenir
pérenne, ça pourrait rester après avec...
Ça pourrait rester là ou ailleurs, typiquement à la ferme urbaine par exemple, il y a un besoin qui est exprimé quand bien même ils basculeront fin 2020 dans l'opération des 5 ponts en toiture, pour que le modèle économique qui tourne, et c'est ce qu'ils vont faire aussi pendant 2 ans qui va le consolider définitivement, assez vraisemblablement, il faut qu'ils aient aussi des espaces au sol. Et donc ces espaces au sol, assez vraisemblablement, par une proximité avec le bâtiment des 5 ponts, on va les fabriquer dans le parc de Pré-Réduc, où on n'avait pas nécessairement imaginé ça au départ.
D'accord.
Donc c'est un mode un peu, les sachants diraient, recherche-action, quoi, d'une certaine manière.
Ouais. Et après, est-ce qu'il y a aussi, avec l'achat des terrains et puis la recherche des occupés, donc à chaque fois, est-ce que ça, donc l'achat, ça se passe en même temps qu'une réflexion autour de qu'est-ce qu'on fait dans les médias?
Oui, tout à fait.
Et ça a généré un peu les projets qui sont en place maintenant.
Bah, nous, à un moment donné, si tu veux, le jour où on achète les 20 hectares ferroviaires, fin 2022, on en devient responsable. Donc, si le jour où on achète les 20 hectares ferroviaires, si on n'a pas d'idée de ce qu'on va y mettre et une capacité assez vite à les remplir et à les occuper, très vraisemblablement, c'est un énorme bordel. Et l'énorme bordel, c'est nous qu'en sommes responsables, et notamment le directeur de la Samoa, y compris qu'on gâche sa responsabilité pénale. C'est-à-dire que si demain, il y a quatre camps de Rome qui s'installent fin 2022 parce qu'il y a de la place, mais comme tout bon Rome qui se respecte, ils ne peuvent pas se blairer les uns les autres, qui se tapent dessus, qu'il y a trois morts, Jean-Luc il va en prison. Pour être très pragmatique.
D'accord.
Donc le sujet de comment on occupe ces sites, qu'est-ce qui s'y passe de manière plus ou moins contrôlée, mais en laissant quand même aussi plus d'espace de liberté que quand on est vraiment en plein milieu du projet urbain, en plein milieu de la ville, c'est clairement un vrai sujet.
D'accord. Donc, est-ce qu'il y a déjà, parce que j'ai vu tout, en fait, le maître d'œuvre qui a fait le projet sur le sud-ouest, sur la Kay Wilson, avec des idées.
Quand même.
Oui,
Ouais.
avec. Peut-être j'ai pas bien regardé ou j'ai pas. J'apprends petit à petit, mais du coup, pour le faire, le ferroviaire, il faut aussi. Et donc, c'est aussi une réflexion de OK, qu'est-ce qu'on fait tout de suite avant qu'on puisse commencer à réaliser. Et ça c'est.
Ben ça c'est un ça c'est un mélange entre une réflexion et des envies d'une équipe de maîtrise d'œuvre et nous en face des réflexions peut-être un peu plus pragmatiques et de l'équipe de maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire qu'une certaine manière, la réflexion de l'équipe de maîtrise d'œuvre, là aussi, elle vient nous ouvrir les chakras et enrichir les idées de ce qu'on pourrait faire, y compris de manière provisoire. Et elle doit nous alimenter, nous. Mais encore une fois, je reviens à mes histoires qui peuvent faire un peu peur de responsabilité pénale. Si demain, il y a une ZAD. Parce qu'on parlait des Roms, mais on pourrait aussi avoir une ZAD comme il y a eu sur l'aéroport Nantes-Atlantique. Si demain il y a une ZAD sur le site ferroviaire et que c'est le bordel, c'est nous qu'en avons la responsabilité, notre maître d'œuvre il s'en fout un peu. Si demain ou en même temps que l'ENA démolit une mine, progressivement il y a des gens qui s'implantent dessus et qui empêchent le chantier du CHU de démarrer. C'est une vraie question pour nous. Évidemment, pour notre maîtrise d'œuvre, c'est un peu embêtant parce que le projet il avance pas comme il devrait. Mais c'est pas l'équipe de maîtrise d'œuvre qui va se retrouver dans le bureau de Johanna Roland à devoir rendre des comptes de pourquoi le CHU démarre pas. Donc c'est notre sujet à nous. Et après, soit la réflexion de notre maîtrise d'œuvre, soit la réflexion d'autres, soit l'intégration sur certaines parties de projets un peu alternatifs, etc. Tout ça nourrit. Une réflexion programmatique, on va dire, de ce qu'on a intérêt, de ce qu'on peut y faire de manière provisoire. Et le provisoire peut être amené à durer parce qu'il peut y avoir des projets intéressants qui sortent de ça. Voilà.
Ben merci beaucoup. C'est si j'ai encore des questions,
Ouais.
je te dis, mais
Super,
déjà
moi je
ça
suis en
m'aide.
congé le 19 juillet, donc après toi tu pars au fin juillet, c'est ça?
Oui, bah le 12, le 2 août. Le 2.
Et après ton mémoire tu travailles dans le mois d'août, comment ça marche?
Alors là, genre, il faut que je le rende. J'essaie d'arrêter
Ouais.
l'enregistrement.